20 juillet 1998, cour de Rav Eman, Shirachirim à Montevideo.
Je pense qu'on est au verset 11. C'est bon, l'air conditionné. Je rappelle allumé.
C'est fait. C'est fait. Ah, oh, mais il y a l'air conditionné parce qu'il ne ferait pas cette température si elle passe.
C'est bon.
C'est pas possible d'avoir cette température avec sans air
conditionné. Ok. On va faire avec. Rochoket en paz, que vous sautam, taltalim, shechorot, kaorev. Traduction. Rochot. Sa tête, Ketem Paz. C'est difficilement traduisible. On va dire Ketem Paz, c'est Rocho sa tête, Paz, c'est la pierre précieuse. Un trésor, Ketem, c'est le trésor, Paz, qui est fait de pierres précieuses. Que vous tsotav, Taltalim, alors que vous tsotav, ses cheveux, Taltalim, qui descendent en boucle, Shechorot, noir, Kaorev, comme le corbeau. C'est bon? Hein? Ça vous satisfait? Si, d'accord. Orev, c'est le corbeau.
Ce que passe, c'est de l'or.
Ça peut être de l'or lorsqu'il est employé avec zahav. Mais lorsqu'il est employé sans zahav, Rachid dans la Gemara, c'est la pierre précieuse. On ne sait pas exactement.
La topaz, le topaz. C'est une pierre précieuse.
Ah, peut-être, tu as raison. Le topaz.
C'est une pierre précieuse.
Ouais. Ouais, ouais. Bon, on y va. Ici, le problème, si vous avez bien compris la traduction, c'est que le peuple juif s'adresse au peuple de la terre qui lui ont demandé « Qu'est-ce que tu as trouvé de spécial dans un Kadosh Baruch Hu pour être attaché à lui-même pendant la galoute ?» Et là-dessus, le peuple juif répond « Rosho ketem paz kevutzotav taltalim shechorot kaorev » On va dire, d'un côté, Rosho Ketem Paz, c'est vrai que, on va expliquer de quoi il s'agit. Midrashi s'est dit, Rosho Zutora, Ketem Paz, c'est là où il est écrit, Anechemadim, Mizav, Umipazrav. C'est là qu'on voit que lorsque Paz est à part Zahav, Paz veut dire autre chose que Zahav. Il y a marqué à propos des livres et Torah, Mechemadim mi Zahav ou mi Paz Rav. Oui, c'est David Améler qui dit ça dans Télim, ou me tukim midvash, venofet tsufim. Donc ici, ce serait l'allusion à ceci, Roshoketem Paz, mais attention, que vous tsotav taltalim, אפילו דברים שאתה רואה אותם קוצים בתורה, זאת אומרת, même les choses que tu vois comme des épines, טלטלין, c'est la contraction du mot טילטילין, טילטילין, ça veut dire le must du must. On retrouve la même expression à propos de Rabbi Akiva, qui était d'Oresh, Tile Tilin chez l'Alachot, il était d'oresh une multitude de halakhot à propos des tagim qui étaient sur les lettres de la Torah. Donc cette expression tal tanim ou til et tinim, c'est un jeu de mots, ça veut dire que même là où ça te semble plein d'épines, en vérité il y a plein d'halakhot, il y a plein de choses à découvrir. Shechorot kaorev. Alors là, ça commence à devenir un peu plus embêtant. Il y a deux pshatim, c'est une gomor dans Hérovin, Dafkavet, il y a deux pshatim. Le premier pshat, Shechorot Kaorev, c'est que En Yure Torah Mitkaimim et la Bemi Shemachir et Panav Kaorev. Ça veut dire que pour conserver les paroles de la Torah, pour que quelqu'un devienne un Talmid Chacham, il est obligé de perdre sa santé. Ce serait ça l'expression. Marchir panav kaorev. La deuxième chose. Rava amar, Rava dit non. C'est encore pire que ça. En divrei Torah mitkaimim, et la bemi, shemesi matzmo kaorev. Celui qui adopte la conduite du corbeau. Qu'est-ce que c'est la conduite du corbeau? Shuar zari albanav valbnebeto kaorev. Ça veut dire que le corbeau, c'est le seul des animaux qui ne prend pas sur lui de nourrir sa femme et ses enfants. Là, ils se promenaient et eux sont obligés de trouver tout seul leur nourriture. La même chose, il dit Rava. En divrei Torah mitkaimim, et la bemi, shemesi matzmo kaorev, ça veut dire, il est arzari, arzari en hébreu veut dire cruel. Arzari albana, il est cruel avec ses enfants, c'est-à-dire qu'au lieu de nourrir ses enfants, il va au Beit HaMidrash. Parce que vous savez qu'à leur époque, ils partaient une fois par an au Beit HaMidrash, parce que c'était loin, il fallait à pied. Ça mettait des jours et des jours, donc on ne rentrait pas facilement. Et ça, ce serait les deux pshatim qui sont marqués dans la Torah. On va voir que dans la Gemara, dans Hagiga et dans le Midrash, il y a marqué encore un autre pshat qui ressemble au deuxième, premier pshat. Taltalim shechorot kaorev. C'est que c'est seulement dans le Olam Haba qu'on doit rechercher à être comme Paz, mais dans l'Olam Hazé, on doit être d'accord d'être comme Shchorot Kaorev. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'adapter et à la Torah et à d'autres choses encore. On va essayer d'expliquer. Il est évident que, de même que dans le verset précédent, on avait dit d'Oditzar Ve'Adam d'Agul Mervava, qu'il s'agissait Tsar et Adam, de deux notions. Une, c'est la notion de la capara à Tsar, et une, c'est la notion de Midat Hadin, qu'on n'est pas en train de décrire à Kadosh Baruch Hu. On est en train de décrire en quoi doit s'exprimer l'attachement du peuple juif à Kadosh Baruch Hu. Alors ici, on te dit, voilà, il y a deux notions. Une notion, on parle de la Torah elle-même, d'Ivrei Torah. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qui ont l'air comme des épines. En vérité, elles font aussi partie de la Torah. C'est Ketem Paz. Ça veut dire que il devrait avoir une façon de comprendre les choses et que ce soit ressemblant à une pierre précieuse. Mais le Maasé, ça ressemble à des épines. Ça veut dire que c'est des choses difficiles à comprendre. Pourquoi est-ce qu'elles sont difficiles à comprendre? C'est très simple. Parce que nous, on voudrait que la Torah soit parfaite selon notre entendement. C'est-à-dire qu'on a chacun des idées. Et on voudrait trouver, lorsqu'on étudie la Torah, que les idées de la Torah soient exactement les mêmes que les nôtres. Et qu'on les trouve parfaites. Et quelquefois, on voit qu'on se heurte à des choses dont on n'arrive pas à comprendre. Par exemple, les gens, ils viennent et vous disent, la Torah, elle est humaniste. Alors, tu vous dis, elle est socialiste, tu vous dis. La Torah, elle n'est rien du tout. Au fur et à mesure qu'on l'étudie, elle n'entre dans aucun déiste. Elle n'entre dans aucun système. Et même s'il y a des choses qu'on comprend et on voit qu'elles sont extraordinaires, il y a d'autres choses qui nous paraissent incompréhensibles. C'est-à-dire que c'est le prix à payer. Pourquoi ? Parce qu'il doit y avoir une mesure quelque part où la Torah dépasse l'entendement humain. Si il n'y avait aucune mesure où la Torah dépassait l'entendement humain, ce serait un manque dans la Torah. Première raison, où on peut le comprendre, parce que si la Torah s'abaissait à rentrer dans toutes les formules, on pourrait la manipuler. Comment voudrait-on pourrait se mettre à la place de la Torah ? Alors que là, personne n'ose se mettre à la place de la Torah parce qu'il est obligé de dire souvent « je ne sais pas ». Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, je ne sais pas. Il n'y a personne qui peut se l'approprier. Pourquoi ? Parce qu'elle ne rentre dans aucun système. Et chaque fois que tu voudras la rentrer dans un système, tu verras que... Je vais donner un exemple très simple. Tout le monde sait qu'il est interdit, mina Torah, de faire cuire, de manger et de profiter d'un mélange entre le lait et la viande. Faire cuire même si je ne mange pas, manger même si je ne profite pas, et profiter même si ni je fais cuire, ni je mange. Oui. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens religieux ne peuvent pas à vous faire des études d'agronomie ou d'ingénierie en alimentation. C'est interdit. Pardon ? Ah non, ça c'est sûr. Comme ça c'est la lacha. Il y a marqué trois fois l'autre vachel gedi, bachalev imo, chad le bichoul, chad le anaha, chad la chila. C'est comme ça que c'est marqué la gmara. Tout le monde connaît ça. Et les interprétations ne manquent pas. C'est-à-dire qu'il y en a qui va vous dire, voilà, moi j'ai compris le truc, là c'est la mère, le fils, le sang, la mila, le truc, l'inceste. Chacun va vous enfermer dans un système où il va essayer de trouver ses repères par rapport à ce qu'ils sont. Et lorsqu'il aura bien fixé son truc, il va aller chez le Talmid Chacham, il va dire, voilà, j'ai compris pourquoi l'autre Hachem lui dit, bachalev imo. Vers enfantin. Le lait et le sang, ça se... C'est de la même essence, c'est pas de la même substance, on peut trouver tout. Et l'autre, il va lui dire, d'accord, mais alors pourquoi est-ce qu'on a le droit de frire ensemble ?
De quoi ?
Frire, j'ai le droit, moi. Si je ne cuis pas, mais je fais frire, c'est-à-dire que je ne mets pas de produit qui associe les deux, le lait et la viande. Je les mets ensemble sur une poêle, ça s'appelle bichoul, non, ça s'appelle tigoun. Ça s'appelle en français de la friture. C'est permis, vous pouvez y aller carrément, c'est permis.
Quoi, le lait et la viande
avec... Ah voilà, c'est permis. Le lait et la viande frite, c'est permis.
S'il n'y a pas d'huile avec,
s'il y a pas... Voilà, non, même avec de l'huile, vous pouvez y aller, c'est permis. Et voilà, vous voyez.
Alors quelle différence,
voilà.
On est quelle différence il y a entre la friture et la cuisson ? Non, mais je veux dire...
Attendez, ne me posez pas la question, parce que je suis en train de vous expliquer que vous ne comprendrez pas.
Oui, non, le pourquoi, j'ai compris que je ne comprendrai pas. Mais ce que je ne comprends pas, c'est...
Quelle est la définition ?
La définition.
La définition, vous regardez sur Panaro, c'est plein de définitions.
De la friture et de la cuisson.
La cuisson, c'est lorsque on met un produit qui lie les deux. On met de l'eau, par exemple. on met quelque chose ou on fait cuire l'un dans l'autre. Ou alors on met beaucoup de lait et on met de la viande dedans pour faire cuire. Mais lorsqu'il n'y a pas cuisson, il y a ce qu'on appelle tigou de friture, à ce moment-là c'est permis minatora, ça n'est interdit que midrabanan. Donc on est d'accord ?
Oui, j'ai compris.
Non, on n'a pas compris justement.
J'ai compris la différence voilà. entre friture et cuisson.
Voilà. C'est très difficile à comprendre. Jusqu'à toi, je ne veux pas le mélange. Qui t'a parlé du mélange ? Où tu as vu le mot mélange ? Il y a marqué l'hôte Vachel.
C'est pas grave, non, c'est interdit par les rabbinim, je sais pas.
C'est pas grave, ouais.
Non, vous avez dit que c'est interdit par les rabbinim, ou c'est même pas interdit par les rabbinim.
De quoi ?
De faire de la friture. La friture.
Oui, c'est interdit par les rabbinim.
Ah d'accord, ouais, ça veut dire très fort, parce que les gens vont essayer ce soir.
Mais c'est comme ça, c'est déjà assez compliqué.
C'est monodique, là. Il faut...
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on a reçu à l'Achal Moshe Mishinaï l'interprétation de la Torah. Du mot Bishul. Bishul, il y a tout un Shulchan Aruch qui explique ce que c'est. Bishul. Et tout ce qui n'est pas Bishul, ça ne fait pas partie de l'interdiction de la Torah. Moi, je vous dis ça parce que c'est spectaculaire. Et que finalement, ça ne vous dérange pas. Mais on peut en sortir beaucoup plus. Par exemple, lorsque vous avez du châtenaise, vous savez ce que c'est le châtenaise ? Un mélange de lait et de laine, comme la plupart des costumes, vous allez chez normalement, vous achetez aujourd'hui un costume, il est interdit en tant que châtenaise. Pourquoi ? Parce que dans le col ou dans la doublure, pour tenir le vêtement, vous avez du lin. Alors normalement, il y a marqué Lo tilbash tsemer ou pishtim yardav. Tu n'as pas le droit, tilbash, on va traduire, de t'habiller tsemer ou pishtim yardav. Le tsemer et le pishtim ensemble. Tsemer, c'est la laine. Pishtim, c'est le lin. Yardav, c'est ensemble. Ok, ça tout le monde comprend. C'est exactement l'interdiction que le lait et la viande, la même chose. Chatnez, ça s'appelle. Maintenant, il y a marqué juste après Tsemerouch Pishtim, Loya Ale Alecha, ou Beget Tsemer Pishtim, Loya Ale Alecha. Un vêtement de Tsemer et de Pishtim, Loya Ale. On va dire, on va traduire, ne montera pas sur toi. Ça veut dire que je ne peux pas non plus me couvrir d'une couverture qui est faite en châtenaise. Donc lorsque j'achète un salon et qu'il est en laine, il est pratiquement toujours châtenaise. Pourquoi ? Parce que il est toujours doublé de lin. Ça, je vois encore. Si je mets du lin et de la laine ensemble, les deux, est-ce que je dois les mettre dessus ? Eh bien oui. Ça n'a rien à voir. C'est pas le fait de coudre. Parce qu'il y a marqué le « Yale Alecha ». Comprenez ? Si je m'assois, ça dépend. Midoraita, j'ai le droit. Si c'est quelque chose qui n'est pas dur, qui est lourd, et qu'on a peur que ça peut envelopper nickel qui vous fasse de la personne, c'est de nouveau interdit maintenant. Ou ça peut être Midoraita, sinon, Yale Alecha. Alors c'est difficile de comprendre que j'ai le droit de m'asseoir dessus, mais j'ai pas le droit d'être sur moi. Ni c'est cousu, ni c'est pas cousu. Et on peut continuer dans chaque halakha d'attendre. Ça veut dire que là où tu trouves pas des choses qui te plaisent ou des choses où tu te retrouves, tu vas retrouver exactement les tilim de choses où tu es complètement perdu. Et tu es obligé de raisonner avec une autre tête. Pas avec la tête de tous les jours qui te permet de comprendre et de discerner les choses, avec une autre tête, la tête de la Torah. Ça, c'est très dérangeant. Parce qu'on n'ose pas représenter quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est pour ça que la plupart des représentants de la Torah, ils ne vous parleront jamais de ces choses-là. Donc, c'est pas important. Il faut laisser ces choses-là. C'est ça ce que la Gemara appelle les kotz. Il y a des kotzim, il y a des épines. Les épines, c'est le fait qu'on est obligé d'assumer des choses incompréhensibles. C'est incompréhensible. La lacha elle est. Une femme n'a pas le droit d'avoir les cheveux découverts une fois qu'elle est mariée. Mais elle a le droit d'avoir d'autres cheveux. Donc elle a le droit d'avoir une perruque. Quelle différence? Alors il y a des poskim qui n'arrivent pas à comprendre la différence. Et ils vous disent, eh bien c'est interdit ça aussi. Ça c'est la facilité. Mais la vérité, elle n'est pas. Elle est que tes cheveux, tu n'as pas le droit. Mais une perruque, tu as le droit. Va comprendre le comment, du pourquoi, le comment. Ça veut dire que la Torah, qui d'un côté, elle va m'obliger, qui est un base, de trouver les choses belles, de trouver les choses intéressantes, de trouver des choses qui vont me donner des idées. Elle va me restreindre de l'autre côté. Et ça devient chachon quand on rêve. C'est noir comme le corbeau, des choses qu'on n'a pas envie de voir. Comment on peut assumer tous les deux? En sachant que ni l'un ni l'autre ne nous appartient. Si je crois que le Keten Paz, il m'appartient, ça veut dire que les raisonnements que j'arrive à formuler, ce sont les miens. Alors les autres sont difficiles. Parce que je ne vais pas pouvoir faire l'article, puisque... Mais si je sais que... Je ne suis pas obligé d'assumer, moi. Le monde ne m'a pas demandé d'être propriétaire de la Torah, ni de l'expliquer à quiconque, ni de l'assumer de moi. Puisqu'il ne m'a pas demandé de l'assumer. Alors, je peux rester piqué, mais ce n'est pas grave. C'est comme si quelqu'un m'a dit, tu sais pas attraper les roses, il faut se piquer. Ok. Maintenant, tu arriveras à prouver à personne que c'est formidable d'avoir des ronces aux roses. C'est une anomalie de la nature avec laquelle on est obligé de vivre. Mais si vous allez expliquer à quelqu'un, tu sais, c'est bien les ronces pour les roses. Il va t'envoyer, vous comprenez? Donc c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas assumer. On peut subir et on peut dire c'est comme ça, mais on ne peut pas faire autrement. Maintenant, d'aller dire que c'est fait exprès. C'est évident que c'est fait exprès, mais pourquoi on ne sait pas? Et je vous dis pourquoi. Parce qu'il y a une deuxième interprétation. La deuxième interprétation, elle est encore pire que celle-ci. Il est écrit dans la dernière paracha de la Torah. Haomer, le Aviv ou le Imo, le Ruitiv. Voici quelqu'un qui dira. C'est une bracha, hein? Le aviv ou le imo, à son père, à sa mère, l'oritif. On ne connaît pas. Et echav, l'oikir. Il ne connaît pas ses frères. Ved banav, l'oyada. De n'avoir pas connu ses enfants. Ki shamro, imratecha, uberitra, yinsovo. Ça, c'est la tribu de Lévi qui vont étudier la Torah et qui donc, à Omer, la vie, vous l'imo, l'aurait dit. Ils n'ont jamais vécu avec leurs parents, puisqu'ils sont partis jeunes. Et Echav l'oïkir, ils ne connaissaient pas leurs frères. Et Badav l'oïada, ils ne connaissaient pas. Là, c'est encore plus difficile. C'est ça ce qui a marqué au rêve. ça veut dire que c'est déjà un système dont on pourrait dire qu'il n'est pas normal. C'est des exigences qui sont dures. Mais en réalité, il fallait encore plus loin. Regardez pourquoi. On pourrait encore comprendre. Il y en a qui le diraient que si quelqu'un y va pour étudier la Torah, il a une bracha, alors il pourra s'en sortir comme ceci, comme cela. Ça, c'est facile pour celui qui voit de l'extérieur. Mais pour celui qui fait, c'est pas facile du tout. Tout le monde connaît l'histoire de Rabbi Akiva, qui était parti et qui est revenu au bout de 12 ans. Et il a entendu la discussion de sa femme qui disait que, puisque son mari étudiait la Torah, alors elle était heureuse comme ça, il est reparti pour 12 ans. Encore de notre temps, on raconte, il y avait un grand Talmid Chacham qui s'appelait Rabbi Lahoud Lapian, qui était au Rosh Yeshiva à Londres, qui pendant, depuis son mariage pratiquement, il revenait qu'aux fêtes, à Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot. Un jour, il est revenu dans la ville de Kelm, où sa famille habitait. Il a abordé un garçon, il lui a demandé que Madame Papien a déménagé, s'il peut lui dire où est-ce que c'est. Et c'était son fils. Mais il se raconte qu'il a éclaté en pleurs, pas qu'il était content. Parce que quand ça vous arrive, ça ne doit pas être facile à dire. Ça veut donc dire que je ne dois pas croire que le système qui a été élaboré par le système de la Torah, je suis obligé d'y trouver du plaisir, du contentement, de l'explication et de la satisfaction. Ça ne fait pas partie du jeu. Ça veut dire que les goyim viennent chez le peuple juif et ils disent, voilà, qu'est-ce que tu as trouvé de spécial chez Akadosh Baruch Hu? Ma doder midod shekach yishbatanu. Comment le peuple juif est d'accord de subir la galoute? Et pour le peuple juif, Roshoketen Paz et Khutsotav, Tatalim, Shchorot Kaorev. En vérité, c'est vrai qu'il y a des choses dont on comprend que pour celle-ci, ça vaille la peine, mais il y a des choses pour lesquelles on ne comprend pas. Si on savait pourquoi le système a été élaboré comme ça, alors, pas de problème. On n'aurait pas de problème, mais on ne sait pas. C'est que je suis obligé de vivre et savoir que la rose a une épine et qu'il est rare ceux qui arrivent à cueillir les roses sans se blesser aux épines. Non seulement ça ne remet pas en cause le système de la Torah, mais il est possible que ce soit le contraire de ce que nous nous pensions. Vous savez, quand quelqu'un réfléchit, il a des choses faciles, des choses difficiles, des choses compréhensibles, des choses incompréhensibles, des choses agréables, des choses désagréables à faire. Alors il s'est dit, on m'a donné du désagréable pour pas que tout soit agréable, parce qu'il faut aussi la avoda. Pas que les choses coulent de saut, il faut un effort. Mais peut-être c'est le contraire aussi. C'est qu'on t'a donné de l'agréable avec le désagréable, parce que si tout c'était Tatalim sur le corps horaire, on n'arriverait pas. On ne sait pas. C'est-à-dire, je ne sais pas quel est ce côté et quel est ce côté. Ce que je sais, c'est que pour acquérir la Torah, on vient à Rava, il me dit, il faut être arzari, il faut être cruel. Nous, on aurait pensé que la Torah, ça rend doux. ça adoucit les mœurs. Et voilà qu'on lui donne, il faut être arzari. Il faut être arzari, car on encore, ça nous avait dit qu'il faut se soucier de choses spirituelles. Et puis quelqu'un qui a le souci des choses spirituelles, on comprend que le matériel ne l'intéresse pas tellement, mais c'est pas vrai. On lui dit qu'il doit être arzari. Arzari, ça veut dire il faut avoir une mauvaise mida. Vous comprenez ? C'est ça qui est difficile à comprendre. C'est ça qu'on est obligé de dire. Que ce qui a marqué dans la Gemara, que le Orev, le corbeau, il est arzari albanav. C'est parce que dans la nature, on trouve normal que celui qui a les moyens s'occupe de celui qui n'a pas les moyens. Alors on en trouve un qui n'a pas ça. On l'appelle arzari. Mais quelquefois, on doit pouvoir te demander d'être arzari aussi. Parce que même là, je peux me demander, pourquoi est-ce que dans la nature les choses ont été faites comme ça ? Peut-être c'est la pilule pour me faire avaler le truc. Mais en vérité, c'est le contraire. Peut-être qu'on aurait dû dire à chacun pour soi, la vie est courte. Je ne peux pas m'occuper des autres. Si tu prends vraiment l'importance de ce qu'il y a à faire dans la vie, dis-moi. Ouais. Ça veut dire que la définition de ce que nous appelons le Nisayon, on ne sait pas de quel côté elle est. On va aller plus loin encore. Le Midrash dit, Elu talmidei chachamim shenirim ke urim veshchorim ba'olam hazeh. Ça, ce sont les talmidei chachamim qui ont l'air que urim. Que or, ça veut dire moche. Shachor, ça veut dire noir. Comme l'oreb. L'oreb, c'est le plus moche des oiseaux. Ah, où est-ce qu'il y a Rosh Hoketem Paz? Ba'olam haba. On ne peut pas tout avoir. Alors on va demander. Qu'est-ce que ça veut dire que le système il passe automatiquement par ça? Il passe automatiquement par le fait d'avoir l'air que Ourim et Shrorim. On est obligé de penser que oui. On est obligé de penser que oui. Ça veut dire que la valeur des choses, elle n'est pas selon notre baromètre à nous, elle est seulement notre baromètre. Et d'Afka, ça doit l'air que oui. Ça veut dire que celui qui arrive à faire plaisir à tout le monde et montrer bonne figure à tout le monde et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout le monde le comprend et tout le monde l'admet, c'est qu'il n'est pas un Talmid Chacham. Il doit, quelque part, être Shachor Kaorel. Ça veut dire que le clan Israël n'attend pas que la Torah elle fasse recette. Parce que s'il avait attendu ça, il n'aurait pas supporté la galoute. Lorsque le non-juif vient lui demander, il lui dit, est-ce que ça vaut la peine de supporter la galoute ? Alors il est obligé d'expliquer, comme on avait dit, Tsar, Véadom, que de même qu'il y a la Midat Adin, il y a la Midat Arachamim. On est obligé d'expliquer ici, c'est la même chose. Il est impossible de grandir dans l'esprit de la Torah sans avoir laissé quelque chose, mais pas du superflu, d'avoir laissé quelque chose qu'on considérait comme principal. Quelqu'un va partir au Beit HaMidrash, c'est une question dans la Gemara. La Gemara, dans le traité de Kiddushim, elle demande « Ou l'ilmod ou beno l'ilmod ?» Il n'y a pas de parnassa pour les deux. Qui c'est qui doit aller apprendre ? Le père ou le fils ? Ou l'ilmod ou beno l'ilmod ? Le fils vient, il dit « Voilà, donne-moi d'argent. » Le père, il dit « Non, c'est moi. Toi, tu vas bosser pour moi. » La Gemara dit « C'est celui qui est le plus doué. » Celui qui est le plus doué. Moi j'aurais dit, monsieur, chacun son tour. De nouveau, j'ai faux. J'ai faux. Ah, la Torah n'est pas égalitaire. Elle est inégalitaire. La preuve, il y a des doués et des pas doués. Parce qu'elle n'est pas égalitaire. Et le monde non plus n'est pas égalitaire. Et la nature non plus n'est pas égalitaire. Où l'humain, ben non l'humain. C'est le plus doué qui y va. C'est ça qui a marqué Shrovot Kaorev. C'est-à-dire que si quelqu'un il sent qu'il fait des progrès, et ses enfants ils se débrouilleront. Il y en a qui sont là-dedans, ils se débrouillent bien. Et le bon Dieu n'a pas pitié d'eux. Ça ne les cœure pas. Vous comprenez ? C'est la question qu'on a, c'est quoi ? Mais comment on peut faire une chose pareille ? Comment on peut demander à quelqu'un, toi tu vas aller dans la main et tu as laissé tes enfants ? Et pourquoi il n'y en a pas assez des enfants qui sont laissés dans le monde ? C'est juste pour les tiens qui a peur. Juste parce que la Torah te le dit. La Torah, elle te dit le Hémet, c'est pas grave. Tu vois, au Brésil, il y en a plein qui sont comme ça. Ou l'Ilmod, venons l'Ilmod. Et encore là-bas, c'est tout juste, on ne prend pas les yeux et le... Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'on les mutile encore, les pauvres. Et ça, le monde, il supporte. Comment il supporte ? Le monde a été fait comme ça. Moi, je ne suis pas représentant qui va avec ma valise la Torah et qui est là pour plaire aux consciences humanistes du XXe siècle. La Torah n'est pas là pour ça. C'est une grande, grande, grande erreur. C'est à moi de m'adapter. Comment je vais m'adapter ? Je dis, voilà, il y a un système. Tu le calques et il est calqué sur le système de la vie. Dans la vie, il y a des gens qui sont shorim quand on rêve. Il y a des corbeaux. Et bien dans la Torah aussi, il y aura des corbeaux. Si le monde sait supporter ça là-bas, il peut supporter ça chez nous aussi. Et nous aussi, on peut supporter ça. Tu vas me dire, mais là-bas, on ne le fait pas exprès. Ici non plus, on ne le fait pas exprès. C'est un ordre. Quelle différence ? C'est l'ordre des choses. À la fin, on va poser la vraie question. C'est que si on a été à la place du monde, on n'aurait pas fait le monde comme ça. C'est vrai. Mais c'est pas très grave. Il vaut mieux que nous on soit pas d'accord avec le bon Dieu, plutôt que le bon Dieu soit pas d'accord avec nous. Si l'on n'est pas d'accord avec lui, c'est pas très très grave. Pas grave. C'est le jour où il n'est pas d'accord avec nous, là c'est le problème. C'est qu'il faut bien comprendre que on n'est pas là pour essayer de trouver un système bon enfant qui rassure celui qui a tout, et il veut retrouver des valeurs dont il pense qu'elles sont exactes. Nous, on est là pour pouvoir retrouver les valeurs. Et malheureusement, si le bon Dieu a permis que ce genre de souffrance existe, c'est-à-dire qu'elles font partie de lui, elles font partie du schéma. Et on n'a pas le droit de les nier. Et on ne peut pas dire non, on ne les amène pas à l'intérieur de notre système. Elles font partie de notre système comme de tous les autres systèmes. Si la rose a des épines, eh bien tu ne trouveras pas de rose sans épines. Ah, maintenant tu vas refuser à cause de ça parce que c'est dur, parce que c'est embêtant, parce que tu as conçu les choses autrement. C'est ton problème. Quand on avait dit le monde n'est pas égalitaire, à toi ça te plaît l'égalité. Tu ne peux pas toujours être d'accord avec tout le monde. Ça veut dire que, est-ce que c'est sciemment ou pas sciemment, on n'en sait rien. On n'a même pas le droit de le dire parce qu'on ne connaît pas. Les cheshbonot, on ne sait pas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait des choses comme ça? Mais ce qu'on retrouve à l'extérieur, on va le retrouver dans le système même de la Torah. Et non seulement on ne doit pas être choqué, mais on doit pouvoir faire avec. C'est-à-dire que celui qui veut tout avoir, il n'aura rien. Et celui qui croit que sans certains sacrifices, il peut promouvoir quelque chose d'intéressant, c'est impossible. Parce que, qu'est-ce pas, tout le monde le voit. Chacun, il a un bon ventre, il écoute un bon truc, tiens, mon chien, il a compris, ouais, c'est bien, ta. C'est lorsque ça arrive, je rentre au rêve, ah, là, on commence à être angoissé. Ce qui ne veut pas dire que ce soit facile à faire, et qu'on va pouvoir le faire avec cynisme. Mais ce sont des données. Ce sont des données qui sont celles que l'on voit dans l'humanité. Il n'y en a pas pour tout le monde. On le voit, c'est comme ça. Ou l'ilmot, ben non l'ilmot. Il n'y a pas pour tout le monde. Il faut bien qu'on fasse un choix. Mais la Torah, elle te dit le choix. Ça, c'est une idée qui est en crise. Mais encore une autre idée. Vous savez que les Chachamim disent, parce qu'il faut quand même comprendre un jour, comment est-ce qu'on peut décrire Dieu avec une tête rocho, paz, taltalim, shechorot, des boucles noires, très bien, oh. C'est difficile à comprendre, bien qu'on comprend que il ne s'agit pas ici de description. Mais pourquoi est-ce qu'on utilise les membres de l'homme? Alors la réponse, elle est simple. Elle est marquée partout, c'est que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc l'image de Dieu, lorsque je veux la décrire, pas pour savoir comment il est, c'est pas intéressant, pour savoir mes rapports avec lui, alors je lui donne ma compréhension des choses. Ça veut donc dire que notre compréhension, elle passe par les membres. C'est oui important. Rosso, c'est important. Taltalim, c'est important. La main, c'est important. Le pied, c'est important. C'est important. Parce que lorsqu'on parle de lui, on parle de ça. Mirtam Milaoudi, encore pire que ça. Il est pour te montrer que c'est important. Même au moment de triatametim, alors qu'on ne mangera plus. On ne dormira plus. On aura quand même un gouffre. Il servira à quoi?
On ne sait pas.
Il a une certaine kedusha. Voilà. C'est ce que nous devons dire. Plus on ne sait pas. Il a une certaine kedusha. Lorsqu'on a employé un keli, on a employé un ustensile. Même si cet ustensile n'est là qu'au service de quelque chose, il a une kedusha. Ça, c'est vrai. Mais ça va encore un peu plus loin. C'est pas que c'est un ustensile neutre qu'on a employé à cause de sa kedusha. Parce que si c'était comme ça, garde la kedusha et laisse l'ustensile, parce que l'ustensile est neutre. C'est que cet ustensile, il amène la kedusha. Comment? Comprenez? Si le corps, ce que c'est qu'une main, ce que c'est qu'un bras, ce que c'est qu'un pied, c'est juste un ustensile de kedusha, et bien le jour où on prend la kedusha et tu jettes l'ustensile, ne recommence pas. Donc c'est que c'est pas dans l'ustensile, c'est dans la forme de l'ustensile. Comment? Dans la nature de cet ustensile. Alors on va essayer de comprendre. On va dire ceci. Est-ce que c'est par hasard qu'il y a une mitzvah d'étudier dans la Torah, il y a marqué Vagitabo Yomam Valaïla. Vagitabo, on va dire, tu t'y plongeras dans l'étude de la Torah, Yomam Valaïla, jour et nuit. Quand il faut travailler, tu vas travailler. Quand il faut manger, dormir, tu vas manger, dormir, à part ça, tu restes plongé dans l'étude de la Torah. Il y a des gens assez doués ou qui sont bien entraînés, ils savent faire deux choses en même temps. Donc, d'après Rashi, dans le traité de Brachot, ils sont obligés de faire les deux choses en même temps. Pourquoi? Et bien, le Rambam dit dans le Moré Nevouchim, que la grandeur des Avot, c'était de faire des gestes simples, avec les pieds en bas et la tête en haut. Ok. On comprend ça. Mais, il y a un éver, il y a un membre qui s'appelle la langue, et qui parle tout le temps. Oui, non. Et par hasard, le vœu Agitabo, dans la grammaire, s'appelle Amalpé. Ça veut dire que quoi? Est-ce que c'est parce que la bouche elle sert à parler et que c'est pas difficile de parler, la preuve, les gens ils parlent tout le temps, ils s'arrêtent jamais, ils sont jamais fatigués. C'est les seuls muscles qui ne font pas mal lorsque on les surutilise. Et là, tu as trouvé dit, Vagitabo, et on va aller là. Est-ce que c'est par hasard? On va aller plus loin encore. Il y a marqué dans le Rambam, écoutez bien ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam, il est au 12e Pérec des Halachot de Issour et Bia. Il est le Rambam comme ça. Dit le Rambam comme ça. Gezel ve'arayot nafsho shel Adam mechamadata. Le gezel, c'est-à-dire sa propriété que les autres ont. En tout cas, allez voir chez l'autre ce qu'il a. C'est très intéressant. Qu'on a les moyens, ça s'appelle faire du shopping.
Mais c'est pas du gezel à ce moment-là.
On n'a pas dit que c'est du gezel. On a parlé de chemda et arayot. Les choses belles de la chair humaine, nafsho shel Adam chamata. L'homme en a envie. Le tachmot, c'est l'envie. Le fichar, c'est pourquoi. Comment est-ce qu'un homme va faire? Et la Torah dit, velo taturu achare levavchem vachare nechem. La Torah me dit, le tachmot, tu n'as pas le droit de convoiter. Mais est-ce que je peux m'empêcher de trouver beau? Même trouver beau ce qui est à pas à moi, c'est déjà du lotitavé, même si c'est pas du lotachmod, c'est un autre commandement qui s'appelle lotitavé. Faut pas saliver devant les choses qui sont pas pour toi. Faut pas se nourrir de ses yeux. Vous savez qu'il y a des gens qui se nourrissent de leur vue, ça leur suffit. Il y en a où c'est juste le début. C'est les mêmes. Ça, c'est l'histoire de la Torah. Il dit le Rambam. En irurim sholtim et la belève à panoim irom. Il dit, tu sais qui c'est qui pense à ça? C'est seulement quelqu'un qui n'a pas de chokhma dans sa tête. Mais celui qui a une pensée dans sa tête, puisqu'on pense tout le temps, alors pense à la Torah, pense à une kusha, pense à quelque chose d'intelligent. Le chokhma ne pense pas à des bêtises. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire le Rambam? C'est qu'un homme ne peut pas s'empêcher de penser. Ça marche tout seul. T'as jamais vu que la pensée s'arrête? Alors, puisqu'elle ne s'arrête pas, je vais lui donner quelque chose qui s'appelle la chorma et qui fait que on peut penser à des choses intelligentes. On ne peut pas s'arrêter de penser. C'est-à-dire que si quelqu'un pense un jour pouvoir contrôler sa pensée, il a raison. L'arrêter, impossible. Dit le Rambam, eh bien c'est très simple. Au lieu de penser à des bêtises, tu vas penser à des choses intelligentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on peut essayer de comprendre. Est-ce que ça veut dire que comme par hasard la pensée ne s'arrête pas, alors les Chachamim ont trouvé un truc qui est que tu vas penser à des choses intelligentes? Ou non? Puisque tu peux penser à des choses intelligentes, pourquoi la pensée s'arrêterait? Parce que tu peux penser à des bêtises. C'est-à-dire que le gouffre, c'est pas seulement un keli qu'on jette après, parce qu'il a une kedusha, on prend la kedusha et le keli n'a plus de signification. C'est que le keli a été adapté pour que le train puisse, en marche, être fonctionnel, selon l'idéal que l'on doit avoir. L'idéal que l'on doit avoir, c'est qu'il pense à des choses intelligentes. C'est pour ça que ça ne s'arrête pas de penser. Non, c'est vrai, à cause de ça, on pense aussi à des bêtises. Non, c'est à toi de faire la part des choses. Mais pas le contraire. C'est-à-dire, celui qui me dit qu'il pense à rien, c'est un menteur. Parce que le gouffre, il n'est pas fait pour ne penser à rien. Alors, ou tu penses à quelque chose de bien, ou tu penses à quelque chose de mal. Mais tu es obligé de penser. Parler, c'est la même chose. Celui qui reste devant les autres sans parler, c'est très 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 difficile. Il parle. Alors, ou tu veux parler de choses intelligentes, ou de choses bêtes. La même chose pour courir. Tout le monde court. Et je pourrais étudier, si je savais exactement les fonctions de chaque membre, de voir que le gouffre d'un homme, il émite Kadesh, comme le Kodesh Kodashim. Il attrape une Kodusha, pas parce qu'on a pris un truc et on a dit, voilà, tu sais, maintenant on va t'utiliser pour la Kodusha. Parce qu'il est adapté à la Kodusha. Et puisqu'il est adapté à la Kodusha, il a mis sa correspondante à la Kodusha. Et à ce moment-là, tu vois que le gouffre, il n'est pas utilisé simplement comme un keli étranger, comme quelque chose. Et tu vois qu'il est utilisé comme il doit être utilisé. Les goyim, on n'a rien contre eux. On ne fait pas de politique. On n'a rien contre le goyim. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on a adapté les choses de telle façon à ce qu'un homme utilise ce qui est dans la nature. Un jour on a dit au don du Maharal, le Maharal dit, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a institué le sommeil? On a besoin de ça. Ah, je dis pour le rêve. Interrompt. Peut-être le rêve, c'est l'inconvénient du sommeil.
C'est aussi possible.
On ne sait pas. Maharal dit, parce que l'idée de triatametim, c'est une idée qui doit être absolue dans l'homme à chaque instant de sa vie. Et elle ne peut exister
que
si il a l'exemple du sommeil. Si on n'avait pas l'exemple du sommeil, pourquoi est-ce que un arbre va grandir d'une graine pourrie que j'ai mis dans une terre avec un peu d'eau et un peu de soleil? Parce que si on ne vivait pas de cette façon-là, on ne pourrait pas avoir l'idée que le Olam n'a pas besoin pour recommencer de grand-chose. Et ainsi de suite. Ah, vous allez me demander maintenant. Donc ça veut dire que ce gouffre-là aussi, quelquefois, il doit être arzari. Oui, parce que il est possible qu'il y a des choses qui se passent et qui ne marchent qu'avec l'arzari. C'est-à-dire que dans la vie, on doit être égoïste quelquefois. Ça passe comme ça. C'est-à-dire que la Torah n'est pas pour me venir et me dire, voilà une vie en dehors de la vie, où tout est beau, tout est simple. Ce sont des kélim que je dois utiliser, c'est comme des ustensiles que j'utilise au fur et à mesure. Alors il y a un ustensile qui s'appelle l'arzariout. Il y a dans la nature aussi, on voit. Nous on aurait créé le monde autrement peut-être. Mais nous, on ne sait pas ce que c'est la Avoda. C'est le monde qui nous apprend la Avoda. Sinon, on nous avait dit... Moi, une fois, quelqu'un m'a dit, c'est les humains, c'est des bêtes sauvages. Et je dis, en vérité, c'est les bêtes qui sont sauvages. Si vous vous mettez dans votre jardin ce soir, et vous allez écouter rien que les bruits du jardin, c'est que des catastrophes. Pourquoi? Parce que les mouches mangent les... Allez, on va dire les pucerons. Et les papillons mangent les mouches, et les autres mangent les papillons. Et... Ils sont tous en train de se bouffer. Il n'y en a pas un qui est tranquille et calme. Il n'y a qu'à écouter. Ah comment, pourquoi c'est comme ça? Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est comme ça chez les hommes aussi?
Il y a une réponse.
Allez-y.
C'est que toutes les choses sont récursives les unes par rapport aux autres. Tout va d'après le sens des choses, qui, d'après les freins et les moyens. Et est-ce qu'une chose négative, une chose négative qui aboutit à une chose positive, alors une chose positive qui aboutit à une chose négative...
Elle est négative. Je suis d'accord. Mais ça aurait pu se passer tranquillos.
Oui, mais il faut que si la chose négative...
Ça aurait pu se passer bien.
Oui, mais justement, si la chose négative...
Pourquoi vivre sur le compte de l'autre?
Non, parce que si la chose négative aboutit à une chose positive, au final, et c'est l'ordre...
Non, je suis d'accord, si vous êtes obligé de créer le négatif, mais pourquoi l'avoir créé ce pauvre négatif pour être obligé, avec tout un truc, de le rendre positif? Laissez-le tranquille.
Parce que le positif ne peut pas exister sans le négatif de manière ontologique.
Ça, je ne suis pas sûr. Parce que c'est la poule et l'œuf. Je
ne
sais pas.
Parce que la lumière ne peut exister que par rapport au
je ne suis pas sûr. Je ne crois pas.
Et
je ne crois pas.
Et que le
je crois pas.
L'œuf ne peut exister.
Non, c'est faux. C'est faux. Alors je vous dis c'est faux parce que le or Kakashbokh ou la lumière qu'il a créée dans les 7 jours de la création, c'est pas ce genre de lumière là. C'est pas obligatoire. Il y en a qui dit comme vous, c'est le arachaz, mais c'est pas tellement évident. Ça veut dire que le or, c'est pas le contraste seulement du rocher. C'est possible que pour mettre en valeur le or, on a besoin aussi du rocher. Mais de dire que ça n'a de valeur et ça ne peut exister que par rapport à l'autre, je suis pas tout à fait d'accord. À mon avis, on n'est pas obligé de rentrer dans ce problème-là. Même je vais dire que les deux sont nécessaires. Maintenant, pourquoi ils sont nécessaires? C'est pas tellement intéressant. Vous comprenez? C'est pas tellement intéressant. Ce qui est intéressant surtout, c'est que c'est comme ça que le bon Dieu a fait les choses. Ça qui est intéressant. Et de savoir que nous-mêmes, on fonctionne comme ça. Et que puisque nous-mêmes, on fonctionne comme ça, on est obligé de voir... Comment la Torah nous permet d'utiliser notre gouffre pour accéder à des choses dont on n'accède que grâce à ce gouffre-là. Donc maintenant, je peux comprendre que même au moment de Triat HaMetim, où je n'aurais plus besoin du gouffre, j'en ai quand même besoin, hein, parce que c'est mon image, c'est ma référence. Et que même à ce moment-là, j'ai besoin de la référence pour accéder à l'essentiel.
Parce que vous voyez, c'est beaucoup plus que la référence. C'est ce qui est resté de justement le problème de la récursivité dont on a parlé.
Si vous voulez.
Parce que c'est ce qui est
si vous voulez.
Dans le temps futur.
Si vous voulez. Je ne suis pas contre. Donc maintenant, on va essayer d'arriver à comprendre maintenant le pshat dans le verset. Shechorot Kaorev, on avait 3 pshati. La Gemara elle dit Bemiatamotse divre Torah, Bemishimash, qui vous marie, Valiam, le Betamidrash. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que tu es obligé de donner de toi-même, ça ira pas facilement. Il faut être mâche qui vous m'arrive, il faut donner quelque chose. Rabba Omer, Bemishima, Chir Panama, Kaorev, et Rabba Omer, Mishima Tzmo, Arzari Albanav, Val Benebeto Kaorev. C'est-à-dire, en fin de compte, ce sont les facettes du même raisonnement. Mais il y a encore une autre chose qu'il faut comprendre aussi. Arène, on dit, voilà, Taltalim Shrot Kaorev, c'est les Talmidei Chachamim, qui avaient toute leur grandeur, quelque part, ils ont l'air Kaorev. Pourquoi? Ils sont obligés d'être pauvres, ils sont obligés d'être ceci, ils sont obligés d'être cela. Bon, ok. Nous n'avons pas à justifier, on a dit, et de dire le bon Dieu a raison ou il a tort, et c'est bien comme ça ou c'est pas bien comme ça. Ce que nous devons comprendre, c'est comment attraper la chose. Ça veut dire que quoi? Est-ce que ça veut dire que Si quelqu'un veut devenir un Talmid Chacham, il est obligé de faire des sacrifices qui sont dans sa propre personne. Comme un prix à payer. Est-ce que ça veut dire que c'est une question? Parce qu'on n'accepte jamais à quelque chose de vaste si on n'a pas des questions. Et qu'il faut toujours un peu dire tirara pour que celui qui ne veut pas, eh ben, il ne fait pas. Parce qu'il a des questions. Ça ne lui fait pas d'avoir des questions. Ça, on ne sait pas. Ça, moi, je ne peux pas dire. C'est pour une chose ou pour une autre chose. Mais maintenant, il va se poser le problème qui est de savoir. Ça veut dire que si je veux grandir, je suis obligé de me laisser petit ou de faire mauvaise impression. Est-ce que c'est quelque chose qui est voulu ou c'est quelque chose qui va arriver? C'est-à-dire que quelqu'un vient et dit, voilà, moi je voudrais bien devenir un Talmid Chacham, alors dites-moi, comment je fais pour avoir l'air du haut rêve? Ou non? Ça viendra tout seul. Comprends le problème? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour avoir l'air dégueulasse, comme on dit? Ou non? Ça viendra déjà tout seul. C'est un problème. Et je sais pourquoi. Parce que celui qui le fait exprès, il a évité déjà les trois quarts du problème. C'est comme si on joue un jeu et on veut dire, voilà, ça c'est le mode d'emploi. C'est bête, vous comprenez? Donc on est obligé de penser que celui qui rentre dans ce système, il se voit seulement qu'est Tempaz. C'est les autres qui le voient Shachor Korel. Mais il ne se voit pas Shachor Korel. Parce que s'il se voit Shachor Korel, il ne va quand même pas jouer la comédie.
Est-ce qu'il ne veut pas aller jusqu'à la Vichy?
C'est l'histoire qu'on a racontée un jour, que quelqu'un est allé chez le Baal Hashem Tov, il lui a demandé comment quelqu'un il peut être Sameach Beissourim, quelqu'un il peut être
joyeux
dans la tourmente. Et la Gemara a dit dans le traité de Shabbat, de Pechet, Sameach Beissourim, il faut être Sameach Beissourim. Alors il lui a dit, il y a un monsieur qui s'appelle Rav Zushi Adani, pourquoi vous allez lui demander cette question? Ils sont chez lui, ils ont trouvé une baraque tout abîmée. Il n'avait rien du tout, il était pauvre comme Yob. Ils ont vu un type. Péniblement, il avait un petit siège pour s'asseoir et pour étudier. Toute la maison froide et vide. Ils se sont dit, sûrement c'est pas celui-là, mais enfin on va lui demander quand même. Ils ont dit, le Baal Shem Tov nous a envoyé chez toi pour que tu nous dises comment on peut être sa mère Beissourim. Il a dit, moi je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, parce que moi, dans Baruch Hashem, le bon Dieu m'a toujours donné tout ce qu'il me fallait, et je n'ai jamais dit Beissourim. Vous comprenez? Ça veut dire que, c'est pas, il y a un mode d'emploi, il faut être Arzari Albanav, et je vais commencer par ça. Bon, c'est ce qui rapporte le plus. C'est pas que je peux, moi, me permettre de dire, bah, puisqu'il faut être Arzaria Banav, alors Arzaria Banav. C'est que c'est comme ça que ça doit sortir. Si ça sort pas comme ça, on va peut-être se poser des questions, mais c'est comme ça que ça devrait sortir. Maintenant, il en reste qu'il y a une dimension extraordinaire. Et qui est que le fait que le Olam de la Torah, il n'est pas reluisant de l'extérieur. C'est la plus grande tova que la Kadosh Baruch Hu a pu faire au clan d'Israël. Parce qu'il n'y a rien qui attire plus les gens que la Torah, d'une façon facile. Et lorsqu'ils se heurtent à ce problème, au lieu de perdre tout espoir et de se dire « ça ne me fait pas envie », ils se sentent un petit peu au-dessus, ils sont critiques, ça leur fait du bien. Et comme ça, tout le monde est content. Même celui qui n'arrive pas à être le meilleur, il doit se sentir un petit peu au-dessus quelque part. Un jour, j'étais chez quelqu'un avec un rav qui est très célèbre. Puis, à la fin, quand on est parti, il a dit, vous n'auriez pas un vieux costume que vous ne mettez plus. Vous êtes allé chercher un vieux costume. Il lui a donné, il lui a expliqué que mon costume était encore bien et tout. Pendant une demi-heure, il lui a fait un vieux costume. Et vous savez, je ne le mets plus depuis très longtemps, mais pour vous, ça ira très très bien. Il est à peine lustré, mais chez vous, ça ne se voit pas. Il a pris le costume, on est sorti en bas, il l'a mis dans la poubelle. Je lui ai dit, mais pourquoi vous avez pris le costume? Il m'a dit, on est venu, on a parlé de Torah. On lui a montré qu'on est des grands amis de Rami, il n'est rien du tout. Comment est-ce qu'on peut lui donner quelque chose et qu'à la fin, il ne nous maudisse pas? Il faut qu'il soit plus que nous quelque part. Alors on va lui dire, t'as vu, j'ai pas de costume. T'as pas un costume? Avec toute sa Torah, il n'est même pas capable d'avoir un costume. C'est-à-dire quoi? C'est à moi, j'ai peut-être pas autant de Torah, mais au moins j'ai un bon costume. Si ça n'était pas fait comme ça, ce serait la guerre. Ça veut dire qu'on peut se permettre, avec une bonne conscience absolue, de ne pas être le top du top. Parce qu'on a toujours de quoi se contenter. Si ce n'était pas comme ça, ce serait ou je refuse ou je. Il faut donner à chacun un potentiel. Parce que comme la Gemara dit, Lo ayu yamim tovim l'Israël. Les jours, c'était le 15 Av. Vous savez ce qu'est le 15 Av?
C'est le jour des renards.
Le 15 Av, c'est le jour des Shiluchim. Pourquoi est-ce qu'on faisait les Shiluchim le 15 Av? Vous savez ce qui est passé le 15 Av? Hein?
Avec les renards.
Ah bon? Dans le désert.
La fin de...
Les tribus avaient le droit de se rentrer.
Ah, ça, je ne connais pas. Mais c'est possible, hein?
Le héritage a été détruit
le 9.
Et c'est 7 jours après que.
À Rotaï, les explorateurs sont venus le 9 Av. Et chaque 9 Av mourait 60 000 du peuple juif sur 40 ans, ça fait
145
000.
Non, alors c'est faux, c'est 15 000.
J'en ai combien, vous avez dit?
C'est 15 000, hein? Mmh. Ça fait 600. Mmh. Oh! Comment est-ce qu'il savait? Le dernier Tisha B'Av, qu'est-ce qu'il faisait le soir de Tisha B'Av? Il y avait tout le monde creusait des tombes. Et il y avait toujours 15 000 qui restaient. Chaque Tisha B'Av dans le désert, tout le peuple juif creusait la tombe et il y avait 15 000 qui restaient. Et ces 15 000-là ne sont pas morts. C'était la dernière année au moment où ils sont rentrés en Eretz Israël. Ils ne sont morts que lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël. C'est avec le 15 Av. Pourquoi? Parce que le 10 et le 11 et le 12, ils pensaient toujours qu'ils allaient mourir jusqu'à ce qu'est arrivé le 15 et ils sont rentrés dans Israël. Donc c'est de là qu'on a commencé à célébrer le 15 Av. Et qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait les familles qui cherchaient les chidouchim pour leurs enfants et les filles chantaient. Qu'est-ce qu'elles chantaient? Celles qui avaient du yichus, elles chantaient moi j'ai du yichus. Celles qui avaient de l'argent, parce que c'est jamais les mêmes les pauvres, elles chantaient j'ai de l'argent. Celles qui étaient belles, encore c'est jamais les mêmes que celles qui ont dit c'est de l'argent, elles chantaient moi je suis belle. Chacun elle se trouve une mahala. Pourquoi? Parce que on est obligé d'avoir une harmonie sans que tout le monde ait les mêmes qualités. Alors comment tu vas faire? Tu vas dire quoi? J'ai pas d'ichos, mais je suis joli. Toi t'es pas jolie, mais elle a de l'argent. Toi t'es l'argent, elle a pas d'ichos. Chacun est obligé d'avoir quelque chose. Le plus grand chesed que le monde a fait pour que la Torah puisse se perpétuer dans le cas d'Israël, et qu'il n'y ait pas de haine. C'est pour ça qu'avec Iva lui-même, il disait que la Maharet, il avait une telle haine pour le Talmid Chacham que il était prêt à le tuer.
En le mordant.
Même à Yom Kippour.
Il le mord.
C'est-à-dire le jour de Yom Kippour, quand il était en Maharet, il rencontrait un Talmid Chacham, il avait des idées de meurtre. Alors que c'est un jour pour penser à autre chose. Pourquoi c'est comme ça, hein? Parce qu'on essaie toujours d'avoir ce qu'on n'a pas. Mais si finalement tu as quelque chose d'autre, tout le monde est content. Ce qui veut dire qu'on va se contenter de ça. Mais au moins, les choses, elles ont la possibilité d'être. Et celui qui n'a pas là, il aura l'autre. Celui qui a l'autre, il aura là. C'est pour ça qu'on peut comprendre ce qui est marqué. Rosh Oketem Paz. C'est vrai que ça a relu de tous les côtés. Ah bah, Tal Talim Shorot Kaorev. Il faut en payer le prix. Et les choses, elles sont bien comme ça. Même si nous, on aurait fait les choses autrement, on aurait dit, pourquoi ne pas avoir un monde sans payer le prix? Ah bah, le monde, il a fait les choses comme ça. C'est à moi des questions. Ouais.
Poser deux questions.
Allez.
Sur la dernière, sur le mariage, je crois, me rappeler que ça se termine en disant si on propose de se marier les Shem Shamayim. Alors,
ça dépend, ça c'est celle qui est ni belle ni d'argent,
oui.
Ni lui.
Alors, je veux dire, ça, c'est vrai que l'histoire c'est joli, mais dans la réalité, même les, enfin, je crois même les Gdolim, ils cherchent le Yichus, ils cherchent des qualités, qui sait qui. Même un gars
de l'histoire, il n'y a pas les Shem Shamayim. Je vais dire tout de suite. Celui qui a ni argent, ni rose, ni beauté, lui se marie Shem Shamayim.
D'accord. Alors l'autre.
Est-ce que c'est pas une calamité?
Voilà.
Grâce au charme. Okay.
Alors l'autre question, c'est sur le début, quand vous avez effectivement expliqué qu'on comprend la Torah, enfin on essaie de donner des explications, mais en fait ça, on est un peu dépassé. Mais ça n'empêche pas que les gens cherchent à trouver des explications. Et
absolument.
Même pas que les. Je dirais qu'au XXe siècle, les Rahamim, et nous aussi, on est donc pris entre une recherche d'explication en sachant qu'on ne comprend pas entièrement.
Attention, moi, ce dont j'ai parlé, c'est pas de trouver des explications, c'est d'enfermer les choses dans un système. Que quelqu'un trouve des explications, là-bas, qui trouve qu'il cherche toute sa vie. C'est... Chaque fois que j'ai compris un petit truc, j'ai fait avancer le chemin. Mais d'enfermer dans un système, c'est trop malin pour jamais pouvoir être enfermé.
Est-ce que
c'est plus facile
d'être juif dans un pays
oriental
ou dans un pays cartésien comme la France alors?
Je crois que ça rien. Les juifs n'ont jamais fait partie ni des cartésiens ni des orientaux.
Vous avez proposé un changement en fonction de la Torah pour qu'il ait les idées bien en place et qu'il puisse avancer. Et en réalité, je ne construis jamais. Il ne fait toute sa vie que se construire puisque la Torah ne peut pas l'enfermer, elle ne peut pas lui appartenir.
Ça veut dire qu'il ne se construit pas?
Ça veut dire qu'il se construit pas. Dans le sens que la Torah a les moyens de sa politique.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire quelque part, le fait qu'elle nous fasse paraître, les Tamilachim comme des gens noirs ou comme des difficultés, c'est-à-dire que c'est pas parce que le corbeau il est dur, il ne nourrit pas ses enfants, que le corbeau ne se multiplie pas sur terre. C'est-à-dire quelque part, la Torah a quelque part de la possibilité, malgré tout ça, que. Et que ça soit l'idéal des choses, c'est-à-dire
que
ça soit peut-être la meilleure façon de faire.
C'est possible. C'est possible.
Je ne comprends pas l'exposition. Si tu crois que lui-même n'en est pas conscient, il y aurait pas d'arrêté, ce sont les autres qui le voient comme ça. Mais dans le monde, c'est pas un de Rabia qui va, mais que Satan était très content, c'est-à-dire que c'est des cas particuliers. Je veux dire, les gens sont en train d'être prêts à faire cette information. Je veux dire, peut-être que lui-même
en souffre,
que... lui peut en souffrir.
Absolument.
Lui peut en souffrir.
Donc il ne se rend pas compte que c'est Shrod Kaorel.
Si, il s'en rend compte. Et je dis, ou alors,
ah non.
Si, lui, très bien.
C'est vrai ce qu'il en sort.
C'est-à-dire, les gens qui sont autour sont prêts, sont satisfaits comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont quelque part une compensation. C'est-à-dire qu'ils participent, comme vous dites.
Voilà.
Moi, j'ai la Torah, l'autre, il a un
peu. L'autre, il a ça. Voilà.
Que les gens qui sont autour.
Absolument. Lui aussi participent. Mais lui, c'est possible que non, si tu lui demandais, il te dirait, moi, je suis loin de ça, au contraire, j'y arrive pas.
Mais ils n'en souffrent pas.
Ah, bien sûr, ils en souffrent. Tout le monde en souffre. Les gens qui sont autour en souffrent, et même si au fond ils sont contents parce que, attention, il ne faut pas enlever à chacun ce qu'il a. Ben, dès qu'on en souffre, ça veut dire qu'il y a des choses qui me sont difficiles à supporter. Seulement du fait que ça m'est difficile et que j'en souffre, je voudrais changer le système. Et on voit qu'on n'arrive pas. Ça veut dire, je donne un exemple. Aujourd'hui les gens vous disent, bon, puisqu'on est au XXe siècle, et qu'on a des moyens, et qu'on a des... Ça devrait plus être comme ça. Et à mon avis, à chaque siècle, on va dire ça, parce qu'on cherche à en évoluer. Et on voit que c'est encore comme ça. Mais qu'est-ce que ça peut leur faire, que ce soit comme ça? Alors, c'est pas seulement parce qu'ils trouvent que c'est pas beau, et que l'image de la Torah, elle devrait être une des gens riches, puissants, beaux, tranquilles, non. C'est parce qu'au fond, ça leur fait mal au cœur quand même. Je parle pas de celui qui est à l'intérieur. Lui, il est possible qu'il trouve ça tout à fait normal, et qu'il ne se rend même pas compte qu'il est le corbeau.
C'est zéro la
Ça veut dire que l'extérieur non plus.
Les chambres de Torah, c'est pas par rapport, ça veut dire.
Si moi je décris l'autre, moi je Elutami Rachamim, qui sont Shorim Korev, c'est celui de l'extérieur qui le décrit. Mais celui de l'intérieur, il ne suis pas Tamit Racham, moi.
C'est pas la famille qui est autour.
La famille, les amis, les copains, la société, tout le monde. Tout le monde. Ça veut dire Shorim Korev, c'est une description de l'extérieur. Mais celui qui est à l'intérieur, c'est très possible qu'il se rende compte de ça, et qu'il en souffre énormément, mais il ne sait pas que c'est Shorim Korev. Il croit que c'est Minashamaim, c'est comme ça qu'on l'a figé. Vous comprenez? Quelqu'un, il peut. Il y a marqué. Ah, c'est encore une fois la ligne. Lévi la Roshim Bracha. Omer la vie, voulu moloro, tu veux le kiyo vav loyada. Ça veut dire que le Lévi, il rentre après 50 ans à la maison. Et ça lui faisait plaisir de je connais pas celui-là, je connais pas celui-là, je connais pas celui-là. C'est possible qu'il en souffrait, c'est possible qu'il en pleurait. Moi, je dois voir ça comme une bracha. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que le clan d'Israël. Il est vous de la meilleure façon. Maintenant, il y a une souffrance ici. Il y a une souffrance énorme. Il y a une souffrance même pour celui qui regarde. Il y a une souffrance pour tout le monde. Alors j'ai cette souffrance-là, j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de demander. Comme si on disait, voilà, mais puisque tu me proposes une société idéale, il n'y a que les pauvres types qui doivent souffrir. Non, ça passe aussi comme ça. Ça je ne dois pas être choqué de ça. Je ne dois pas être choqué de ça.
Mais il y a un très grand problème. Parce que il faut discerner deux situations. Celui qui est dit et qui passe 50 ans à l'extérieur de sa maison, parce que les conditions extérieures pour arriver au top niveau au niveau le plus élevé possible de la réalisation pleine et entière de la Torah a impliqué de manière impérative qu'il s'éloigne dans 50 ans, vous pouvez le comprendre. Mais si on peut doter ce lévi de moyens qui lui permettent d'arriver au même résultat sans avoir...
Encore une fois, je vous dis, c'est pour ça qu'on dit à chaque siècle, qu'on peut le doter. Et pourquoi c'est toujours comme ça?
Parce que, alors, ça c'est lié au
il ne fait quand même pas comme ça.
Parce qu'il n'y a pas d'interdit de la Torah de réaliser, et il n'y a pas d'impossibilité technique de réaliser les conditions.
Et on n'arrive pas.
Parce qu'il y a un problème, parce que Kéten, je reprends ce que vous avez dit.
Moi, je vais aller beaucoup plus loin que ça, on va être cru et simple. Vous voyez aujourd'hui une disparité totale entre le monde extérieur et le monde de la Torah. Pourquoi? Vous rentrez, vous voyez des beaux binyanim, vous voyez du marbre partout, et des types qui crèvent de faim. Ça ne vous choque pas? C'est choquant, non? Et pourquoi il y a du marbre?
Parce que quand ils sont dans le limoud, le fait qu'ils soient dans une condition de temps.
Parce que celui qui donne, il veut oublier
la misère.
Je comprends. Il veut pas voir ce côté-là. Et malgré tout, il existe ce côté-là. C'est comme parce si que... on disait les progrès n'y feront rien. Voilà. On essaye. Vous voyez plus que ça. Même si on va à l'encontre de ça, on y va à l'encontre. Et bien ça, c'est inhérent à la Torah.
Je pense pas que ce soit inhérent à la Torah.
Sûr qu'à chaque époque, on a dit, mais maintenant il y a des progrès, mais maintenant on est mieux, mais maintenant on va s'en sortir, et maintenant on a plus besoin de ça.
Mais si,
et chaque fois c'est revenu.
Mais Rabbi, si on regarde, si on compare les niveaux d'il y a ne serait-ce que 50 ans, et les niveaux d'aujourd'hui, on voit quand même que les niveaux d'aujourd'hui sont pas, si vous voulez, la misère de Talmidei Chachamim de notre époque est moins criante, moins hurlante que celle des Talmidei Chachamim d'il y a 50 ans en Pologne.
Je ne sais pas. Je sais pourquoi. Parce que vous devez comparer aussi à l'extérieur.
Parce que on n'est pas arrivé à juguler le problème, à juguler le
Mais
problème.
Qui dit que c'est un problème qu'on peut juguler? Pourquoi on n'est pas arrivé? Peut-être qu'on n'arrivera jamais à juguler.
Et c'est une. Est-ce que c'est pas une misère de juguler?
Peut-être.
Parce que.
Mais on n'y arrive pas.
On peut se poser la question, pourquoi le jour de Shavuot, on lit, me semble-t-il, c'est le jour de Shavuot, on lit une Haftarah qui a trait à l'avenue de Mashiach, et où il est question que Mashiach posera, Mashiach sera là, en train de s'en prendre à qui et d'avoir peur de qui? Des riches chez les Goyim et d'accord. Des riches chez Israël.
Ouais, d'accord. Oh là. Alors
pourquoi il aurait...
Les riches, c'est pas forcément des rechaïm. Pourquoi ils s'en prennent aux riches? La Haftara nous dit qu'ils s'en prennent aux riches, ils s'en prennent pas aux rechaïm. Parce qu'elle soulève très certainement de manière implicite, et j'ai pas les commentaires qui me permettent de l'affirmer, mais je le subordonne intuitivement. Hein, cette Haftara soulève ce problème-là. Comme l'étant la finalité.
C'est très possible. Je vous dis encore une fois. Ça n'est pas un problème. Est-ce que c'est un problème qu'on doit essayer de résoudre? C'est très possible. Je n'ai pas le droit, moi, de laisser l'autre.
Dans la misère. Situation. Parce que c'est de la cruauté.
Absolument. C'est une cruauté. Et cette cruauté, elle va engendrer le fait que n'importe qui est normalement constitué, il essaie d'aider l'autre. C'est son devoir, c'est tout. Mais malgré tout, c'est comme si on me disait, il y aura toujours quelque chose. Pourquoi? Parce que tu veux l'arrêter l'autre, il continuera. Comprenez?
Si on réfléchit, il faudrait reconnaître par rapport à l'autre qui marotte. Mais moi, je suis persuadé que c'est...
Parce que ça ne dépend pas seulement de l'autre, ça dépend aussi de la mitracha. C'est vrai que l'autre, le machère, il aura des talents sur l'autre. Mais je vous dis pourquoi, c'est très simple. Parce que le riche, autant qu'il partage, il en a toujours trop pour lui. Et le machère, il ne supporte pas. Et c'est ça, les mots de machère. On n'a pas le droit d'avoir trop. Parce que dans la nature, on voit que tout est exact. Et tout celui à qui restera trop, c'est que Rabbi dit, on n'a pas le droit de donner un héritage à ses enfants. Chez Neymar, Vazvula Khailim, Khaila. Il dit les enfants à Khailim. Pourquoi?
Les autres.
Les autres. C'est pas les autres, c'est l'accident. Ce que tu leur laisses normalement, c'était en trop chez toi. Parce que ça a dormi longtemps. Si c'est spontané, ça va. Mais ça a sûrement dormi longtemps. Alors ça s'appelle Akhir. Ça, c'est du superflu. Là, t'en vas aller pour l'héritage, mais ne commande pas. Tu as le droit pendant ta vie, tu donnes tout à la tzedaka, tu n'es pas obligé de donner à tes enfants. Il n'y a pas d'issue. Pourquoi c'est comme ça? Parce que ça reste que c'est du surplus. La mala du pauvre, dans ce cas-là, c'est que, autant qu'il partage, il lui manque toujours. Donc il est adapté au Yomata Mashiach, parce que le Zman du Mashiach, c'est le Zman du manque. En vérité, notre Zman, ça devrait aussi être le Zman du manque. Mais tout le monde ne le comprend pas. Vous comprenez? Ça, je vous dis que c'est un problème qui n'est pas résolu. Je vais vous donner un exemple. Il y a une fois, en Amérique, un homme très riche, qui a dit au Ponovi Jorov, je vous donne tout ce que vous avez besoin pour cette yeshiva si vous n'en créez pas une autre. Il a dit, mais une fois que vous m'aurez donné pour ça, c'est sûr que je suis obligé de m'en créer une autre. Comprenez? Le Zman du Mashiach, c'est le Zman du manque. On a un manque de ce qui s'appelle le Dat. Dans ce monde-ci, tout tend à ce qui est le manque. Chaque fois qu'il y a du surplus, on va demander des comptes. Comprenez? C'est ça le sens dont on parle, riche ou pauvre. Mais ça peut être riche en argent, ça peut être riche en connaissances aussi, ça peut être riche en plein de choses. Oui, riche en argent, ça se voit. Le reste, ça se voit moins. Mais c'est ça le problème. C'est que le riche, tant qu'il partage, s'il reste riche, c'est qu'il a du surplus. Et sur le surplus, tu vas donner des comptes.
Ça veut dire que celui qui a de la connaissance et qui ne la partage pas avec l'autre...
Il va donner des comptes.
Et si on l'empêche de la partager, qu'on ne veut pas la recevoir de lui?
Ah, ça c'est déjà un problème.
Parce que ça existe.
Et s'il y a la grève?
Parce que l'argent, on refuse pas, mais la connaissance, on refuse.
Vous avez expliqué que
Dieu... Même l'argent, on refuse.
Que Dieu, on pouvait, je dirais, il existe, mais qu'on projetait des propres idées qu'on avait nous-mêmes.
Non, donc, pour comprendre ces manifestations, on utilise notre gouffre à nous.
Et puis, bon, on va penser qu'il est bon, l'autre qu'il est...
Ça c'est notre voilà, ouais.
C'est l'idée qu'on a. C'est un peu le même système, évidemment, parce qu'on n'arrive pas à la saisir, donc chacun y va mettre un petit peu. Donc le fait que les deux soient un peu sur le même registre, est-ce que c'est, ça marche ensemble ou... Il y a une espèce de...
À mon avis, c'est obligatoire à la pensée humaine. La pensée humaine, elle ne donne pas la même pression ni le même poids aux idées qui sont les mêmes. On peut avoir deux idées, et puis l'un va donner plus de poids, donc il va équilibrer les choses autrement. L'autre, il va donner un autre poids, il va équilibrer les choses autrement. C'est le fait... Ça fait que chacun a une autre idée des choses. Impossible de faire autrement. On peut échanger les idées, échanger. Je mets dans une case, tu mets dans une autre case, et par exemple, ça peut changer. Mais d'arriver exactement à ce que tout le monde pense la même chose, à mon avis, c'est impossible. parce que ça va être une question en hébreu, on dit le lachatz dam. En français, la pression sanguine. La pression sanguine fait que la pensée n'est pas la même chez chacun. Donc la même idée a une pression chez un et l'autre chez l'autre. L'histoire d'une personne, ça fait que une idée fait un écho et donne une récurrence à des choses, c'est pas du tout chez la même chose, c'est l'autre. C'est pour ça qu'on a la logique pour essayer d'équilibrer et d'essayer de faire des transvasements de l'un à l'autre, mais finalement on a sa propre idée. On a sa propre idée. Et ça, c'est possible que c'est ça ce qui a marqué, que l'Atilago, chacun est isolé. C'est-à-dire que dans la perception du Olam Haba, c'est une chose qu'on peut même plus échanger. Parce que ça fait appel à trop de références qu'on peut plus remettre. Vous comprenez? C'est comme les très grands amis des Chachamim, ils ne peuvent plus se parler. Ils ne se parlent que par référence. Tac, 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 tac. Mais ils doivent remettre trop en cause pour pouvoir... C'est là que vient la machloquette. C'est que d'une toute petite convergence, toute petite divergence, c'est devenu un monde. Pourquoi? Parce que chacun a construit de sa pensée. Et
ça a divergé. C'est pour ça qu'on dit qu'à la fin des temps, plus personne ne pourra définir dans les cas concrets là, parce qu'il y aura tellement de machloquettes que ce sera impossible par rapport à... C'est ce que les Gdolim ont dit.
C'est une Gemara dans Hérovine. C'est une Gemara dans le traité de Hérovine. Ok, on vous souhaite en bonnes vacances.
Merci. Vous avez une date de reprise ou
le 7.
Le 7.
Ou le 8. C'est le 7.
7, 7.
Le 7.
7 septembre.
7 septembre.
Ouais. 7
septembre. Je voudrais comprendre l'histoire de la paix. Parce que on dit que la paix.